Antoine Chaube.
Une personne est portée disparue à Blatten en Valais après l'effondrement du glacier du Birch. Il s'agit d'un habitant de 64 ans qui se trouvait dans la zone au moment de l'éboulement. L'événement qui s'est produit vers 15h30 hier a détruit un nombre très élevé d'habitations. Le conseiller fédéral Albert Rösti s'est rendu sur place dès 17h afin de se rendre compte de la situation. Il a été rejoint par le chef de la défense Martin Pfister en début de soirée. Nemo est le grand vainqueur des Swiss Music Awards. L'artiste biennois a décroché hier soir à Zurich le trophée d'artiste de l'année. Et sa chanson de Code, qui a fait triompher l'année dernière la Suisse à l'Eurovision, a remporté l'Awards du meilleur titre. La Lausannoise Navi remporte, quant à elle, la catégorie de meilleur artiste roman. Le parti d'extrême droite Chega devient la deuxième force politique au Portugal. Le parti a récolté hier 23% des voix lors des élections législatives, ce qui le place devant le parti socialiste. Le scrutin a été remporté par l'Alliance démocratique de centre-droit avec 32% des voix, mais elle est loin de la majorité absolue avec 91 sièges sur les 116 nécessaires. À Gaza, la population affamée a forcé hier les portes d'un entrepôt du Programme Alimentaire Mondial. La foule n'a rien laissé, emportant avec elle des sacs de nourriture, des palettes de bois ou encore des madriers. L'incident aurait fait 2 morts et plusieurs blessés. Dans un communiqué, le Programme Alimentaire Mondial dénonce la limitation de l'aide humanitaire qu'Israël impose à Gaza. L'Ukraine s'est dite prête hier soir à des pourparlers lundi à Istanbul avec la Russie, mais ceci à condition que Moscou, à qui revient cette initiative, fournisse à l'avance ses conditions en vue d'une paix. Ces propositions de négociation interviennent alors que le président américain Donald Trump a adopté ces derniers jours un ton plus dur à l'égard de Vladimir Poutine. En football, Chelsea a remporté hier la Conference League. Les Londoniens ont battu 4-1 le Betis Séville à Wrocław en Pologne. Ils étaient pourtant menés 1-0 à la mi-temps, mais ils ont su marquer 4 fois entre la 65e minute et la fin du match. Avec ce titre, Chelsea devient le premier club à avoir remporté la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Conference League. En tennis, Jill Teichmann n'a pas réussi d'exploit hier à Roland-Garros. La biennoise a été éliminée par la Biélorusse Arina Zabalenka en 2 manches, 6-3, 6-1. Et on termine avec la météo. Il fera bien ensoleillé aujourd'hui, malgré quelques voiles de nuages élevées. Un faible vent venu de l'ouest soufflera sur le nord du plateau. Le vent sera un peu plus fort en montagne, notamment dans les hauteurs. Côté température, il fera entre 12 et 23 degrés en plaine. Demain vendredi, le temps sera ensoleillé avec de rares cumulus l'après-midi en montagne. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 2h.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Dans le podcast Crime Suisse, je vous raconte des affaires criminelles qui sont arrivées tout près de chez vous. De Plan-les-Ouates à Zurich, de Tavannes à Lausanne, et au-delà de la violence, de la mort et du sang, il y a surtout des histoires qui racontent notre pays. Des histoires qui nous tendent un miroir. Je m'appelle Antoine Drou et je vous donne rendez-vous un vendredi sur deux dans Crime Suisse, un podcast disponible sur PlayRTS et sur les autres plateformes d'écoute.
Du son, de la radio, la nuit, sur RTS Première.
Drôle d'époque. Émilie Gasque, Pascaline Sordet. Salut tout le monde, salut Sacha Unger qui est aux manettes en régie et suit d'ailleurs tout ce qu'il fait avec des mouvements de la tête. Et salut ma chère Pascaline.
Salut Milly.
C'est mercredi. Le mercredi, notre drôle d'époque interroge notre société à travers nos différentes réalités sensibles. Vous le savez, on questionne toutes nos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, filiales, fraternelles, sororelles, celles du travail, du voisinage, bref, tout, absolument toutes nos interactions sociales pour mieux comprendre comment elles s'expriment, prennent place et nous impactent dans cette drôle d'époque. Et nous questionnons aussi nos origines, nos racines multiples, nos ancrages divers et variés qui nous constituent, fabriquent et colorent la Suisse. Et aussi ce mercredi, c'est à la rencontre de la communauté espagnole des années 60-70 que nous allons d'un bon pas avec le dernier livre de l'écrivaine Dunia Mirales, avec Caravelle du Seillon, paru aux éditions Livre Je l'avais noté. Livre et Walfil, hein, je crois que c'est ça. Hein,
exactement,
parce que,
oui.
Du coup, mon correcteur a noté livre. Je dis non, ce n'est pas ça. C'est Livre et Walfil. Bonjour, on vous a entendu. Bonjour, Dunia Mirales.
Bonjour, Émilie. Bonjour, Pascaline.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio à Lausanne sous une pluie battante. On a des cordes par la fenêtre. Vous arrivez de la Chaux-de-Fonds?
Oui.
Comment ça va là-haut?
Bien, ça va plutôt bien.
Oui, le soleil, vous.
N'exagérons pas, non.
Je réalise que vous avez passé les 60 ans. Ça m'a épaté. J'étais là, bon, moi je vous vois toujours très jeune. Vous qui êtes né au début des années 60 à Neuchâtel, dans une famille espagnole. Vous avez suivi un apprentissage de vendeuse. Vous avez vécu aussi un petit passage en usine. Puis fait des études de théâtre, les cours Florent, à Paris. Vous avez écrit des chroniques pour Couleur 3. Été animatrice pour la radio RTN. On salue les équipes. Vous avez été également professeur de théâtre, journaliste pour le Courrier Neuchâtelois, pigiste pour différents magazines alternatifs. Une vie dense, ouverte, curieuse. Et en 2000, les éditions Baleine à Paris publient votre premier roman, Suisse Trash.
Oui.
Ouais. Avec des personnages très forts. Alors, je vais résumer assez vite. Il y a Cathy qui se déplace en stop. Elle fait le tour des concerts rock. Elle s'envoie des mecs au hasard. Et tout ça en espérant tromper son ennui du boulot à l'usine et une certaine dépression. Dans une autre ville, on a Marie qui se trouve tout à fait moche, qui se saoule avec du pastis, tandis que sa copine Gloria, elle saute de lit d'avocat en lit de diplomate. Elle est absolument convaincue qu'elle va finir par faire un beau mariage. Et elle y tient. Et puis, il y a Constance, une rebelle avec un genre fluide, on dirait aujourd'hui, non-binaire, qui cogne très fort. C'est un roman d'autodestruction, de sexe, de drogue, tout ça sur fond de guerre yougoslave, dans une Suisse où la vie n'a pas vraiment le goût du chocolat, ni le brillant des cadrans des montres. C'était une époque où la scène ouverte, d'ailleurs, de l'héroïne existait encore. Et en novembre paraîtra la troisième édition de ce roman, Suisse Trash. Qu'est-ce que vous gardez de cette jeunesse, de cette époque, Dunia Mirales?
Mirales, en fait, c'est plus j'avance dans l'âge, mieux je me sens. C'était pas du tout
gagné d'avance.
Non, c'était pas gagné d'avance. Je considère que j'ai eu une jeunesse qui était difficile, très disparate, qui partait dans tous les sens, où j'ai construit beaucoup de choses, mais des choses qui ont aussi été détruites. J'ai souvent fait, on va dire, de mauvais choix. Mais est-ce qu'on a toujours le choix? Moi, j'en suis pas certaine. Puisque
le choix de ses choix, vous voulez dire?
Exactement, parce que je pense sincèrement que nous sommes le produit d'une éducation, d'une société. Je ne pense pas du tout que l'on soit maître de son destin. Donc, la seule chose que j'ai réussi à faire, et là j'étais très entêtée depuis l'âge de 9 ans, je voulais devenir écrivaine et je suis devenue écrivaine. Mais ça a été très difficile jusqu'à en arriver là. Et donc, voilà. Puis je pense que, en fait, cette colère que j'avais en moi, toutes ces expériences que j'avais accumulées, ont abouti sur Suisse Trash.
Cette troisième réédition, 25 ans après la première, du coup, vous la relisez avec quel regard? Vous comprenez toujours ces personnages?
Je ne la relis pas, je ne relis pas mes livres.
Quel souvenir vous en gardez alors, peut-être?
Non, non, mais je vais devoir bientôt la relire parce qu'il va quand même peut-être
une préface, voilà. Quelque chose de la nouvelle édition.
Oui, oui. Alors, c'est Philippe Battaglia qui fait la préface de la prochaine édition que vous connaissez ici, je suppose.
Couleur 3.
Oui. Et Donc, le souvenir que j'en garde, c'est que au moment où j'ai écrit ce livre, j'étais en mode de survie. Ce livre, c'était vraiment ce qui m'a aidé à vivre. D'ailleurs,
à tenir, et
l'écriture en général fait que je sois vivante, en fait.
Parce que
c'est ma seule motivation, en fait.
C'est rester en vie.
Ouais. Oui. Par exemple, on n'écrit pas Suisse Trash sans avoir eu une certaine expérience, sans avoir passé par certains moments extrêmement difficiles, y compris dans les milieux de la drogue. Et moi, ce qui m'a aidé toujours à m'en sortir de à me sortir de toutes les situations délicates de ma vie, que ça soit dans des situations délicates par rapport à mes couples, par rapport à certains produits illicites ou licites. C'est toujours le fait que je voulais écrire, je voulais devenir écrivaine. Et je savais que, complètement red def, je n'écrirais pas. Enfin, il y a des gens qui arrivent, hein, mais d'autres, moi, je suis pas...
C'était votre cap et votre garde-fou,
oui,
en fait.
Je voulais pas devenir, je voulais pas devenir une épave. Voilà, parce que, c'est peut-être un mot un peu dur, qui pas extrêmement bienveillant, mais quand...
C'était votre moi, vous, c'était la vision que vous aviez. Vous ne vouliez pas abandonner jusque-là.
Exactement, je voulais vivre pour écrire et écrire pour vivre.
Et donc vivre pour écrire, ça veut dire aller très loin et le raconter aussi?
Alors le raconter, alors en ce qui concerne Swiss Trash, on peut dire que c'est tiré de choses que je connais, mais ça reste quand même toujours une fiction, c'est quand même fictionnel. Disons que je voulais mettre dans ce roman, j'ai voulu mettre des pansements, j'ai voulu donner un sens à des choses que j'avais vues, quoi, ou que j'avais vécues, et il fallait faire des liens qui soient positifs. Voilà, donc là j'ai fait des liens qui moi m'ont semblé extrêmement positifs.
C'est comme ça que ça vous a permis de continuer. Est-ce que c'est votre téléphone qui sonne derrière nous? Ou peut-être, non?
Non, parce que je l'ai mis sous l'avion.
C'est Pascaline.
On entend des petits sons.
Bon, c'est bon, tout le monde a éteint son téléphone. C'est toi, Sacha? Derrière la vitre.
Okay. Je vais vérifier. Non.
J'ai sûr d'avoir mis sous avion. Quoi.
J'ai eu des sons.
J'ai des sons fantômes dans les oreilles.
Voilà, qui est-ce qui s'amuse à nous perturber comme ça?
Une voix invisible.
C'est pas le mien.
Bon. Alors, de Swiss Trash au dernier livre, il y a 25 ans qui s'écoule. Oui. Aujourd'hui, il s'agit donc des Caravelles du Seillon, ou Caravelles du Seillon.
Oui.
Et d'abord, avant de venir sur le propos de ce dernier ouvrage, je voudrais vous faire écouter un son, Donia Mirales.
Un matin, ils sont arrivés dans notre ville. Ils viennent de loin, non pas en touristes, non pas en visiteurs, mais quand même en étrangers. Après 15 heures de train, l'Espagnol découvre notre pays. Il a généralement une cinquantaine de francs en poche, et dans les meilleurs cas, il possède un contrat de travail. Il voit de notre pays tout d'abord un quai de gare, un contrôle de douane, une visite sanitaire. Il subit une attente de plus et il s'inquiète de ce qui va se passer. Car ce qu'il craint, c'est d'être refusé après un long voyage. C'est d'être refusé aux portes d'un pays qu'il ne connaît pas, dont il sait peu de choses, sinon qu'il y roule de belles voitures, que c'est le pays de la Croix-Rouge et de la prospérité. Il a une valise ou deux. Dans le coin d'une valise, une bouteille de liqueur du pays, quelques photos, des objets qui lui rappellent sa maison ou sa famille, le village qu'il a quitté.
C'est un documentaire de Claude Goretta, au début des années 60, sur ces immigrés espagnols, femmes, hommes, qui font la file. On les voit attendre les uns derrière les autres. Il y a ces valises très fragiles, le regard très inquiet. Ils attendent, et ce sont de ces gens dont vous nous parlez également dans votre nouveau livre, Donia Mirales, dans Caravelles du Seillon. C'est aussi votre histoire, celle de vos parents, de votre tante, de votre oncle. Mais quel est-il besoin de revenir sur cette génération qui vous a précédé, qui vous a accompagné?
Eh bien, alors c'est marrant parce qu'il y a une chose que je raconte pas dans le livre, c'est que effectivement, mais par exemple, mon oncle et mon père sont, avant de venir définitivement suisse mariés, sont venus en tant que jeune homme, mais déjà ils savaient parfaitement où ils allaient puisqu'ils étaient déjà, ils avaient vu une petite annonce dans un journal à Madrid, parce qu'ici en Suisse on cherchait du monde, et ils étaient maroquiniers et ils avaient quand même un contrat d'essai pour quelques temps, et le train arrivait est arrivé à la frontière bourré d'espagnols. Et quand ils ont vu, à la frontière, quand ils ont vu débarquer tous ces Espagnols, ils ont dit non, 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 le train, il passe pas, il arrive pas en Suisse. Et ils ont renvoyé le train sur la France, alors que mon oncle et mon père avaient leur contrat, il fallait qu'il soit, je sais pas, c'était un vendredi, il fallait qu'il soit le lundi au travail. Et donc, ils se sont arrêtés à la gare suivante en France, et ils ont repris un autre train, mais qui était un train, on va dire...
Lambda.
Un train régional.
Un train régional qui n'était pas bourré d'Espagnols. Et c'est comme ça qu'ils ont pu entrer en Suisse, bon, en passant les contrôles qu'il y avait à l'époque quand même aux frontières sanitaires, etc. Mais on renvoyait ce train de nouveau à son départ en Espagne. Donc... pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de revenir sur cette époque? Eh bien, simplement parce que je crois que la mémoire se perd. Et actuellement, je vois un total effacement de la mémoire, mais c'est général, hein, dans tous les pays. Et surtout, je crois que la mémoire de l'immigration espagnole n'est pas très bien représentée. Parce que j'ai l'impression que qu'en général ce sont des universitaires, etc., qui font ce genre de travail. Alors moi c'est pas du tout un travail d'universitaire, hein, c'est un travail d'écrivaine. Et je n'avais pas l'histoire de l'immigration espagnole n'est pas du tout la même que l'histoire de l'immigration italienne ou que l'histoire de l'immigration portugaise. Donc je trouvais intéressant de d'écrire cette histoire et puis de l'écrire d'une manière qui ne soit pas académique, de manière à ce que tout un chacun puisse la lire, que ça puisse intéresser des deuxième ou troisième générations sans avoir eu besoin de passer par l'université.
Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrées qui sont et personnelles et historiques. Vous recoupez les situations, vous nous expliquez bien qu'effectivement, l'immigration espagnole, elle est multiple dans son intérêt et pour la Suisse, mais pour l'Espagne aussi, que finalement, ce sont les immigrés qui ont construit l'Espagne et pas du tout le régime de Franco dans sa dictature qui semblait faire fortune. Enfin, oui. Il y a énormément d'informations par un fil très personnel, très singulier et beaucoup de similitudes. L'air de rien, je trouve, avec aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque?
En fait, l'histoire, elle recommence sans cesse. D'ailleurs, on peut dire que le travail qu'ont fait les immigrés de l'époque, que ce soit les Italiens ou les Espagnols et ensuite les Portugais pour faire avancer certaines lois au niveau de l'immigration. Maintenant, on est en train de revenir sur ça et puis de...
Oui, on écoutera un petit extra justement à ce sujet aussi.
Voilà. Donc, je pense que tout est toujours à recommencer et c'est pour ça que je trouvais important de laisser une trace, de laisser une mémoire. Et en écrivant ce livre, je me suis aperçue qu'en réalité, même le problème des Italiens et des Espagnols n'était toujours pas résolu 50 ans, 60 ans après, puisque pendant l'écriture de ce livre, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui ne savait pas que j'étais d'origine espagnole et qui m'a dit... ouais, moi, ces gens, je les aime pas. Ils sont pas comme nous. Et j'étais sidérée, je me suis retrouvée comme lorsque j'étais enfant, en pleine période Schwarzenbach, muette, sans rien dire. J'avais juste envie de péter la gueule à cette personne. Mais la seule chose que j'ai réussi à faire, ça a été à tourner des talons et à m'en aller parce que j'avais pas envie de commencer à me disputer dans une librairie et que j'étais en état de sidération, en fait.
On avance difficilement. Mais comment vous sentez-vous, avec cette question rituelle qui arrive toujours en début d'émission, comment vous sentez-vous dans cette drôle d'époque, Dunia Mirales?
Alors, d'un point de vue personnel, comme j'ai dit tout à l'heure, là, je me va bien.
Formidable. Formidable, ça va continuer.
Je ne parle pas du physique, mais je
quoi mais que vous avez un physique très agréable.
Voilà. Mais en tout cas, ça me convient dans ma vie personnelle. Je vais quand même plutôt mieux maintenant qu'à 20 ans ou à 30 ans. Et puis surtout, je n'ai plus rien à prouver. C'est-à-dire que j'ai fait le deuil d'être la grande écrivaine inconnue, pas inconnue.
Justement, pas inconnue. Le prix Goncourt, c'est pas pour vous.
Non, voilà, quoi. Mais j'ai quand même de très belles choses qui m'arrivent. Hein. On peut en parler tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait certains deuils et tout. J'ai plus rien à prouver. Mais d'un point de vue, on va dire, quand je regarde autour de moi, en ce qui concerne la politique internationale, etc., honnêtement, j'ai peur. Parce que j'ai l'impression non seulement qu'il y a certaines choses qui recommence, notamment avec la montée de l'extrême droite d'un point de vue mondial. C'est même plus dire oui, c'est d'un point de vue mondial, mais en plus avec là, j'ai l'impression d'être en pleine dystopie, quoi, entre 1984 et Fahrenheit 451. Donc, mais d'un autre côté, je me dis, d'accord, moi je dirais pas que j'ai ma vie derrière moi, j'espère quand même encore vivre 20 ou 30 ans, mais je considère que maintenant le monde appartient aux jeunes, que si les jeunes veulent le fascisme, eh ben ils auront le fascisme et ils verront ce que c'est que le fascisme et ils goûteront au fascisme.
Vous n'avez pas d'enfant, Denis Marielle ?
Non, je n'ai pas d'enfant.
Okay, c'est peut-être plus facile à dire comme ça.
Mais oui, mais honnêtement, je suis contente de ne pas avoir d'enfant, quoi. Bon, de toute façon, ça fait partie des choix que j'ai fait étant très jeune et des choses que j'ai réussi à faire. Parce que quand je dis j'ai réussi à devenir écrivaine et j'ai réussi à ne pas avoir d'enfant. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il y a toujours toute une pression sociale qui pousse à avoir des enfants. Alors je trouve qu'avoir un enfant, ça, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est quand même tout ce qui suit après, quoi. Et depuis que je suis enfant, j'ai une vision extrêmement sombre de la vie. J'ai une vision extrêmement sombre. Moi, je suis née avec une guerre dans la tête. Oui. Parce qu'il faut quand même savoir que mes parents me parlaient de la guerre tous les jours.
Mais on va développer cela.
Et de l'après-guerre.
Oui.
Que quand j'étais enfant, alors moi, j'avais le droit de regarder le téléjournal avec mon père. Il y avait le Biafra. Il y avait certaines images qui étaient quand même
ultra violentes.
Et il y avait la guerre du Vietnam. Il y avait la guerre du Vietnam. Et moi, j'ai toujours considéré que, enfin, autant je peux être là très bien avec vous,
et radieuse
en ce moment, mais j'ai une vision assez sombre de l'être humain et
vous n'y croyez pas, peu de foi en l'humanité.
J'ai peu de foi en l'humanité, mais en même temps, ce qui est merveilleux quand même, c'est que l'être humain s'en sort quand même toujours. Alors là, je me dis, quand je dis, si vous voulez l'extrême droite, vous aurez l'extrême droite. Vous voulez du fascisme, vous aurez du fascisme. Mais je pense qu'après, il peut y avoir un renversement des situations. Alors, vous voulez un réchauffement climatique, eh ben vous aurez un réchauffement climatique. Mais je pense que de toute façon, la Terre, elle va survivre.
Et qu'il y aura... pas présager de l'avenir.
Voilà.
On verra bien.
Voilà. Et qu'il y aura des êtres humains pour recommencer des choses. Voilà, même. Je pense que ça va être...
Irrespirable. Allez,
voilà. Chaotique pendant un moment. J'ai répondu à la question.
On va respirer. Aussi difficile que ce soit, respirons encore. Respire encore, encore et encore.
Yeah.
Clara Luciani et Respire Encore. Nous sommes avec Dunia Mirales. La fête, l'abandon dans la musique, sous les stroboscopes, dans l'alcool, l'amour, le sexe, c'est loin de vous ou c'est toujours là à 60 ans?
Non, alors c'est plus du tout là, quoi. Là,
ah, je suis. Ah bon, ça c'est fermé. Mais vraiment, ça s'arrête ça.
Là, je suis axée écriture et c'est tout.
Ah oui, retraite spirituelle.
Non, pas forcément retraite spirituelle, mais disons que heureusement avec l'âge j'ai trouvé une certaine sérénité. Maintenant, c'est vrai que parfois je regrette un peu ce temps-là. Je trouve ça. Que je mène, alors comment dire, bon, j'écris un livre où là je faisais mon coming out, je suis borderline, donc en tant que borderline, je trouve que ma vie maintenant elle est trop apaisée, elle est trop tranquille, il y a une sorte
de redescente plutôt linéaire.
Oui.
Bah c'est chouette, non? C'est un peu apaisant cette fois.
Oui, c'est chouette.
Ça vous manque les montées, les descentes, les grands huit?
Parfois, oui, c'est terrible.
Bah non,
mais je sais. Non, mais je. D'un autre côté, je suis très contente d'être dans une vie paisible. Et d'un autre côté, quand on est borderline, il y a quand même un côté
à savourer l'intensité.
Oui, exactement. Quoi, c'est. Je dirais pas que c'est ennuyeux, mais. Parfois j'en suis. Avant je savais quand j'étais heureuse et quand j'étais malheureuse. Là
c'était
maintenant
très clair.
C'était clair. Hein, c'était ah là.
Là maintenant.
Maintenant c'est.
C'est bien une tisane.
Oui.
Mais en fait vous m'avez dit ça avant l'antenne. Vous m'avez dit oh, j'ai bu une grande verveine. Je comprends mieux.
Des fois je me demande est-ce que je suis heureuse. Et après je me dis bah oui ça doit être ça, être heureuse, ça doit être la sérénité.
Ça doit être chiant. Vous êtes née un jour de froid presque d'hiver. Bref, un 21 août en Suisse. Ils sont très drôles, hein, vos parents. Voici ce que vous écrivez, Dunia Mirales. À l'arrivée de mes parents à Neuchâtel, il n'existe aucun organisme pour orienter les immigrés. Parfois, les employeurs s'occupent des diverses démarches, mais généralement, les nouveaux venus ne peuvent compter que sur l'aide de leurs prédécesseurs. Travaillant sur des chantiers ou dans des usines avec une majorité de collègues italiens, beaucoup de ressortissants espagnols n'apprendront jamais le français. Se débrouilleront très bien en italien. Par chance, et parce qu'ils sont citadins, mes parents savent lire et écrire. Mon père, ma mère, sa sœur et son mari arrivent les quatre en juillet 61 avec un contrat de travail. Les quatre sont maroquiniers, ils ont tous fait leur apprentissage chez Lowe, c'est comme ça qu'on dit ?
Levet,
à Madrid, l'équivalent espagnol de Vuitton. Avant leur mariage, mon père et mon oncle, Ressus, sont venus à Neuchâtel pour effectuer un stage chez Biedermann, qui les engage grâce à la télévision, à la lecture, plein de romans et un dictionnaire bilingue avec des disques en vinyle en guise de leçons. Ils vont apprendre rapidement le français avec un accent à couper au sabre, mais beaucoup de vocabulaire. Et ce ne sont pas des grenouilles de bénitier, hein, les membres de votre famille.
Pas du tout, non.
Non, pas de messe. Non, eux, ils préfèrent
le... pas des chiens.
Voilà, ils préfèrent le cinéma, les dancings à la mode. On sent que ces couples échappent aux tenailles de la dictature. Ils viennent chercher de la joie aussi. C'est la jeunesse, c'est leur jeunesse. On sent qu'il y a de la liberté, non?
Alors, quelqu'un qui m'a beaucoup parlé de ça, c'est ma mère, hein, en me disant en fait, moi, quand je suis arrivée à Neuchâtel, j'ai respiré. Enfin, on pouvait parler. Enfin, on n'avait plus peur des voisins. Enfin, j'avais mon chez-moi. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à Madrid, ils vivaient entassés les uns sur les autres. D'ailleurs, maintenant, ça recommence de nouveau avec la crise du logement, et pas qu'à Madrid, dans toute l'Espagne, et même ici, ça commence aussi un petit peu à...
Et je vous le confirme.
À devenir comme ça.
On a besoin de colocs.
Voilà, oui. Donc le fait de se retrouver dans son appartement avec et puis surtout le fait de pouvoir parler, c'est le fait de pouvoir s'exprimer, de ne pas toujours avoir peur des voisins,
des dénonciations.
Est-ce que malgré les discriminations, le fait d'être des immigrés, d'être des invisibles de la société, ils ont été heureux, vos parents, en Suisse?
Ah oui. D'ailleurs, mon père vit toujours en Suisse, hein, il va avoir 90 ans d'ici peu, le 12 juin, quoi. Et ma mère est repartie en Espagne, mais bon, parce qu'à un moment donné, il y a eu séparation, puis après, il y a eu d'autres modes de vie. Mais ma mère, elle regrette toujours la Suisse. Mes parents étaient heureux en Suisse et ils n'envisageaient pas, comme d'autres Espagnols, de rentrer au pays. Après, il y a d'autres choses qui sont arrivées dans les années 90, par exemple, quand certaines usines ont commencé à fermer. Et par exemple, ma mère et son mari, enfin son deuxième mari, se sont retrouvés sans travail et ils ont dû prendre certaines décisions, quoi, parce qu'ils avaient déjà dans la cinquantaine et que c'était difficile de trouver du travail, surtout en étant étranger, quoi. Mais ils n'avaient pas du tout l'intention de rentrer au pays, quoi.
Et ça, c'est dur, de penser que c'est le retour à contre-cœur, en plus. Il y a la crise. C'est une crise dans un sens, une crise dans l'autre sens.
Eh bien, je crois que les personnes de la première génération, et ça, je trouve qu'ils ont une incroyable résilience, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont été habitués aux allers-retours. Et bon, ben, si il faut repartir ailleurs, et ben, on repart ailleurs, on recommence. Et puis maintenant, avec aussi les vols low cost, moi j'ai vu, alors tout à l'heure on a précisé que j'avais pas d'enfants, mais par exemple mes cousins et mes cousines ont tous eu des enfants et les envoyaient à tout moment les enfants en vacances chez les grands-parents en Espagne. Voilà, il y a quand même quand on est immigré, en fait, on est toujours dans un train, dans un avion, dans un car pour aller voir la famille qui n'est pas là où l'on est.
Et puis, bah, c'est aussi une génération, je pense à votre maman, qui a connu des réalités épouvantables, et notamment la faim. Je lis un passage de votre livre. À la dictature, il faut ajouter la faim. Jusqu'en 1952, l'alimentation est rationnée. Jusqu'à ses 13 ans, ma mère, née en 1939, ne connaît que la faim. Les cartes de rationnement et les produits avariés auxquels elle donne droit pour se nourrir. Certaines familles mangent parfois des aliments jusque-là normalement interdits, comme des chiens, des moineaux, des cigognes. Entre 1939 et 1942, entre 200 000 et 600 000 personnes meurent des suites d'une mauvaise alimentation ou des maladies qui en découlent. La première fois que ma mère mange un vrai morceau de viande, elle est déjà grande, et c'est du chat. Le repas habituel, c'est plutôt des gachas, on dit ça comme ça ?
Gachas, si.
Sorte de bouillie faite avec de la farine de gesso, toxique si on en mange trop souvent, ou des lentilles infestées de parasites. Les petites bêtes flottent à la surface. Ma mère les écarte avec dégoût. Et ma grand-mère lui dit « Mange, c'est de la viande ». Donc vous venez de là. Il y a la guerre, oui. Il y a aussi toutes les réalités des privations. C'est beaucoup de récits qui vous ont été transmis
oui.
Et qui ont dû habiter votre enfance.
En fait, ils étaient tous les jours, ces récits étaient présents. Et ce qui a fait de moi... Là, on est quasiment maintenant, on va dire, d'un point de vue psychologique, dans la maltraitance, quoi. Parce que le fait d'entendre ces récits, moi, quand j'osais me plaindre de rien, parce que si j'osais me plaindre, ou même simplement, j'étais aussi une petite mangeuse, hein, c'était oui, puis nous, puis la guerre, puis machin, puis on n'avait pas ci, puis on n'avait pas ça, avec la chance que tu as. Ensuite, j'ai commencé l'école, c'était la même chose. La chance que tu as d'être à l'école en Suisse, si t'étais en Espagne, on pourrait pas forcément te donner cette éducation. C'est l'école publique, tu reçois une bonne éducation. Donc, en fait, tout, pour mes parents, tout était mieux qu'en Espagne, ici. Donc,
Vous deviez être heureuse.
Donc, j'étais forcée d'être heureuse, et en fait, je l'étais pas vraiment, quoi, parce que j'osais pas exprimer mes ressentis, en fait.
Est-ce que vous avez trouvé ensuite un espace dans lequel exprimer vos émotions?
Alors, d'abord, ça a été la lecture. Donc là, c'était pas moi qui l'exprimais, mais j'avais...
Par procuration.
Par procuration, je pouvais... Et ensuite, ben, l'écriture. Très vite, j'ai commencé à écrire. Et comme je disais tout à l'heure, je reste, alors là, vous me donnez la parole, je la prends avec plaisir. Mais en général, je suis quand même quelqu'un, hormis en famille, avec mes proches, je suis quelqu'un d'assez taiseux, qui ne parle pas. Là, je vais vous parler de mon livre parce que vous me posez des questions sur mon livre et que je suis là pour ça. Mais en général, si je suis en société, personne ne sait ce que je fais, à moins que quelqu'un dise « Oui, puis Dounia, elle est écrivaine, mais personne ne sait ce que je fais. Je n'offre pas mes livres.
» Et puis en plus, on pense que vous êtes Dounia Morales avec un O-U. Parce qu'on le prononce tous un peu n'importe comment, alors que c'est Dounia Morales.
Voilà, donc l'écriture, c'était vraiment pour moi, c'est vraiment mon moyen d'expression. Bon, il y a eu un petit moment où c'était le théâtre aussi, mais ça reste quand même un petit peu différent parce que en théâtre, souvent, on exprime les sentiments de quelqu'un d'autre. On doit réinterpréter, faire passer un texte en soi. Mmh. Et puis, honnêtement, je pense que je suis meilleure écrivaine que comédienne.
Sur la photo que vous nous avez envoyée, parce qu'on demande toujours une photo à nos invités, et d'ailleurs, tout le monde pourrait la découvrir sur notre page RTS, vous êtes effectivement un petit oiseau, j'allais dire, mais il est question d'oiseau. Vous êtes un petit poil, une fillette toute frêle, et vous portez sur vos mains délicates des petites perruches.
Oui.
De couleur, quel souvenir vous avez de ce moment d'enfance, et est-ce que les oiseaux faisaient partie de la vie à la maison?
Alors, mon père aime beaucoup les animaux. Ma mère aussi, mais ma mère, elle a commencé à vraiment, vraiment, vraiment les apprécier beaucoup plus tard, déjà dans sa vie de femme, parce que comme souvent, mon père amenait des animaux à la maison. Alors, en l'occurrence, à cette période, eh bien là, on me voit sur la photo avec deux perruches. Il y avait aussi un poisson rouge et un chat. Mon père est un fan de chats. Et naturellement, c'était ma mère qui devait s'en occuper. Donc, non. Comme ça se faisait à l'époque, quoi. Donc, il y a toujours eu des animaux à la maison. Et là, ce que je garde de ces perruches, c'est que pour moi, mes oiseaux préférés, ce sont vraiment les oiseaux à bec crochu, quoi. Parce que ces perruches, on pouvait les sortir, on pouvait les tenir dans les mains, elles pouvaient voler dans l'appartement, en enfermant le chat dans une autre pièce. Mais
c'était joyeux. Comment est-ce que c'était la relation entre vous? Il y a eu toutes ces remarques, le poids de leur propre réalité d'enfant à eux, et puis le sentiment que vous êtes une privilégiée par leurs efforts et ce qu'ils vous offrent. Mais comment c'était plus généralement? Est-ce que vous diriez que c'était joyeux, qu'ils vous dorlotaient, qu'ils vous lisaient des livres, qu'ils étaient attentifs à vous?
Alors, moi, j'ai eu une belle période. Ça a été depuis, on va dire, mes 3 ans jusqu'à la deuxième année primaire. Et surtout jusqu'à mes 3 ans et 5 ans. Alors, c'est 2 ans. Mais 2 ans dans la vie d'un enfant, c'est très long. Donc, on vivait dans une maison avec un énorme jardin. Cette maison n'existe plus parce que maintenant ils l'ont rasé pour faire d'horribles blocs. Il y a 3 maisons à la place. C'est 3 horribles blocs. Mais c'est une maison à 3 étages. Enfin, il y avait un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage. Et au rez-de-chaussée, il y avait ma tante et mon oncle qui vivaient là avec mon cousin. Et au premier étage, il y avait nous. Et il y avait cet énorme... Alors, il y avait le verger et le potager. Et par exemple, ils avaient installé une piscine en plastique dans le jardin. La piscine n'était pas trop loin. L'après-midi, on allait à la piscine avec ma mère. Et je garde, et c'est là justement où on avait chat, perruche.
C'était un peu le paradis, rouge, là, pour une fillette.
Oui. Alors, ouais. Pour moi, oui. Puis surtout, ce qui était vraiment sympa, c'était que ma tante adorait, puis mon oncle adorait, vivait juste en dessous. Donc, ça faisait un petit peu maison familiale. Quoi.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se passe à 5 ans?
Ben, à 5 ans, on a déménagé parce qu'en fait, cette maison appartenait à l'entreprise où travaillaient mes parents. Puis que mon papa s'est un petit peu disputé au sein de son entreprise, il a changé de travail. Donc, on a dû déménager.
Voilà, les ruptures de la vie.
Oui.
Et la musique accompagnait votre famille parce qu'ils allaient dans les dancings. Est-ce qu'il y avait de la musique aussi? On a parlé des vinyles qu'ils pouvaient mettre pour écouter le français. Est-ce que vous aviez de la musique à la maison?
Alors, mon père était très axé technologie du moment. Hein. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était vraiment très intéressé par tout ce qui était technologie. Et oui, évidemment, il y avait un meuble tourne-disque, radio tourne-disque, comme il s'en faisait à l'époque, dans les années 60. Et il y avait des disques comme ça qui tombaient, plouf, 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 les uns derrière les autres. Et donc oui, ça faisait partie de la vie, la même chose que la radio faisait partie de la vie, et surtout, mais je n'avais pas le droit d'y toucher, hein, donc il y avait mes parents qui touchaient au disque, donc je pouvais pas écouter ce que moi je voulais.
Bon, ça avait l'air assez précieux, hein, quand même.
Oui.
C'était pas rien d'avoir ça.
Oui, c'était cher, quoi. Mm-hmm. Et donc voilà, et il semblerait que à l'âge de 2 ans. J'étais complètement... Et puis ça, je m'en souviens quand même. Il y avait... mes parents achetaient le disque des Beatles, Michel. Et je crois que les premiers mots de français que j'ai appris ont été chantés par des Anglais. Parce que dans le morceau Michel, ils disent...
Michel ma belle.
Michel ma belle, sont deux mots qui vont très bien ensemble. Et je crois que c'est les deux mots, les quelques mots que j'ai dû apprendre en français, que j'ai dû savoir en premier en français, quoi. Et je voulais absolument qu'on écoute Michel, 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 Michel. Et il paraît que je pleurais si on me mettait pas Michel. Et je me souviens très bien de la pochette, en plus, je la regardais, j'adorais les Beatles, leurs cheveux longs, tout ça. Ça me changeait, quoi.
Vous avez choisi la môme pervenche, c'est Frêle, qu'on surnommait ainsi à ses débuts. Elle est devenue Frêle en hommage au Cap Frêle, qui est son cap d'origine, puisqu'elle est bretonne au départ, avant d'aller à Paris. Mm-hmm. C'est vraiment une chanteuse de l'entre-deux-guerres. Pourquoi est-ce qu'elle vous parle, cette chanteuse?
Mais en fait... je me suis aperçue, mais ça, je m'en suis aperçue sur le tard, c'est-à-dire en fait il y a quelques années, que j'ai toujours été intéressée par ce qui ressemblait à une vie tragique, voilà. Et quand j'ai eu accès à la chanson réaliste. En fait, j'ai ces chansons qui racontaient la pauvreté, la misère, la prostitution. Quoique je comprenais pas, quand j'ai commencé à les écouter, je comprenais pas forcément qu'il s'agissait de prostitution, hein, parce qu'après, quand les années passent, et là on comprend mieux parfois certains textes. En tout cas, quand par exemple les roses blanches pour ma petite maman, je crois que je peux pas l'écouter sans pleurer, même encore maintenant. Mais c'est peut-être aussi par rapport au récit de mes parents, quoi, parce que mon père, par exemple, a été élevé dans une mansarde. Même quand j'y allais étant enfant, ça me semblait déjà extrêmement petit. Donc j'imagine que ça devait vraiment être très 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 petit pour que moi ça me semble petit. Donc, ces chansons qui parlent de la vie sous les toits, des escaliers de Montmartre, et des gens qui doivent se chercher la vie, comme mes parents ont dû se la chercher. C'est une expression espagnole quand on dit buscarse la vida, ça veut dire voilà, il faut faire ce qu'il faut pour vivre, survivre et si possible mieux que survivre. Voilà, je pense que c'est qu'il doit y avoir de ça. Mais en fait, je comprends pas très bien moi-même. Mais j'ai toujours aimé, puis j'ai toujours aimé les sentiments forts, comme ça.
Votre vie en est teintée, et puis celle de vos parents aussi, quand même. C'est très romanesque, tout ça, et pourtant c'est la réalité de leur vie. Voici donc la môme pervenche, la chanteuse Frêle, avec ce titre « Comme un moineau ».
De n'importe où à Montparnasse, que je suis né un jour sous les toits et que j'ai pour la première fois ouvert les chances. Mes pères et mères des chars comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. Alors des repas dans notre garnot, laissé souvent sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. Alors joue tous les autres marmots, à l'école vont se bourrer le cerveau de belles grammaires. Avec un tas de mauvais loupiaux, dans les coins on allait jouer au père et la mère. Sûrement que ces petits jeux innocents ne développent pas précisément les belles manières. À 15 ans, droite sur mes ergots, j'allumais tous les gigolos, l'œil effronté comme un moineau. Celui qui a voulu ma vertu pour me posséder n'a pas eu affaire de siège. Il n'a eu qu'à m'ouvrir les bras, mais mon amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, mon cœur au contraire était lui pur comme la neige. Nous éveillant sous les pécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme les moineaux. Il m'a plaqué, as-tu lu tort? Je me suis consolé d'un sort qui est le nôtre. Avec un petit gars dessalé qui, lui, pour ne pas travailler, vendit à d'autres. On s'accoutume à ne plus voir la poussière grise du trottoir où l'on se vautre. Alors sur le pavé parigot, on cherche son pain dans les ruisseaux, l'œil aux aguets comme les moineaux. L'hiver viendra et mon seul bien, ce pauvre corps qui, je le sens bien, déjà se lasse, tombera sur le pavé brutal. Je penserai sur un lit d'hôpital, un soir d'angoisse. Pas plus mauvaise que beaucoup, j'aurais préféré malgré tout, dans ma détresse, un homme qui m'eût aimé d'amour, pour avec lui finir mes jours dans un nichon comme les moineaux.
La chanteuse Fréhelle, nous sommes avec Dunia Mirales. Fréhelle se souhaite, pour elle-même, elle se souhaite un homme qui l'aime d'amour dans un nid chaud comme les moineaux. Vous les hommes, Dunia, après ce long parcours de femme, les hommes, s'en est où? Il y a eu ce livre, oui. Michel E-L et 2LE. Qui raconte votre expérience avec un homme habillé en femme.
Oui. Bon, alors, en fait, il m'enquiquine toujours autant, quoi.
Les hommes.
Oui, les hommes.
Non, on ne doit pas dire les hommes. Ça les conditionne et puis ça les enferme. Alors
mais très, très souvent, comme ça, ceux de ma génération m'ennuient. Alors, ils ont des bons côtés, mais il faut quand même pas oublier que je suis borderline, donc il faut aussi me supporter.
Et reconnaître.
Je crois qu'un homme lambda ne peut pas me supporter parce que j'ai trop de haut, trop de bas, et que les hommes de ma génération ont quand même été habitués à être des princes souvent. Mmh. Donc j'ai un compagnon qui ne me supporte pas tous les jours. Hein.
Mais qui fait des efforts.
Mais qui fait des efforts, et comme il est psychologue, ça va, quoi.
Mais vous êtes bien trop, vous êtes bien outillé, alors.
Voilà, oui, exactement, quoi. Moi, j'ai de la chance, j'ai le psy à la maison, quoi.
Vous-même, vous faites des efforts, parce que justement, enfin, si vous êtes consciente, vous avez fait cette déclaration sur ce trouble borderline qui serait le vôtre. Comment vous entrez en relation amoureuse, alors, avec ça, avec ces caractéristiques?
Je ne sais pas comment. Bon, la première fois que j'ai rencontré ce monsieur, on se connaissait déjà d'avant parce qu'on se connaissait. Il était client là où j'ai fait mon apprentissage.
Et longue histoire, longue connaissance.
Mais il était uniquement client. Et donc, voilà, ensuite c'est une copine qui a dit oui, mais je connais telle personne, je suis sûre que vous irez bien ensemble. Puis moi j'étais là, bof, quoi.
Le Tinder et à puis, l'ancienne.
L'entremetteuse. Puis finalement, je lui ai quand même donné rendez-vous, quoi. Et en fait, je lui ai parlé. Heureusement qu'elle était psy, hein, parce qu'un autre, il n'aurait pas supporté. Je lui ai parlé pendant 9 heures. Je lui ai tout balancé, hein. Tout.
Pendant 9 heures.
Pendant 9 heures.
Voilà. Je voulais une illustration de comment vous entrez en relation. C'est clair.
On a parlé d'intensité. On a une explication.
Et après, vous lui avez fait une liste de livres qu'il devait lire. Vous lisez beaucoup, Denis Amiralé?
Alors, je lis moins de ce que je devrais. En tant qu'écrivaine, hein, personne n'est tenu de lire tant de livres par jour ou par semaine. Parce que, justement, le trouble que j'ai fait que je souffre beaucoup d'inattention. Mmh. Donc,
c'est difficile, rester sur la page.
C'est difficile de me concentrer. Puis maintenant, j'ai un problème d'adulte. C'est qu'en tant qu'adulte, il y a des choses à faire. Quand j'étais enfant, je prenais un livre, et moi j'aime bien lire les livres d'un coup. Je n'aime pas les laisser.
Et pendant 9 heures.
Exactement.
Je crois que je commence à vous comprendre, Denis Amiralé. Je vous connais. Eh bien, nous ici, lire, on adore ça. Et on y arrive encore. Touchons du bois. Chaque semaine, Pascaline Sordel nous propose une petite pépite de lecture. Ah bah tiens, il est rigolo le jingle aujourd'hui. Je crois qu'on l'a inversé en fait.
Mais on va le faire nous-mêmes.
C'est butiner, bouquiner.
Et je me souviens parfaitement du jour où j'ai lu Une activité respectable, le livre que j'ai choisi aujourd'hui. J'étais étudiante, je vivais quelques mois à Paris et je devais changer pour la troisième fois d'appartement. J'ai commencé le livre dans le métro. Je l'ai dévoré entre l'aller et le retour, donc j'ai traversé la ville comme ça en lisant ce livre. D'un coup, justement, avec une impression incroyable qui est qu'on a le droit. On a le droit de faire des choses, on a le droit de devenir qui on veut, même si on n'a pas encore prouvé sa légitimité à exercer son métier, son hobby, son art, n'importe. On a le droit. Alors, si je suis allée vite, c'est aussi parce que c'est un essai de la romancière Julia Kerninon, qui fait 64 pages, donc c'était facile à lire d'un seul coup.
C'est super, comme format.
Un tout petit livre, donc, ce qui contraste d'ailleurs avec son ambition, puisqu'il s'agit de mémoires d'écriture qu'elle a écrit avant d'avoir 30 ans. Et dans ce court récit, elle réfléchit à son propre parcours, ce qui évidemment a un côté un peu narcissique quand on est si jeune. Mais bon, elle le dit, finalement ça faisait que 64 pages, donc ça allait. Et elle façonne sa propre légende, comme le dit sa maison, les éditions du Rouergue. Elle s'interroge sur cette question justement de la légitimité. Qu'est-ce qui donne le droit d'écrire? Est-ce que c'est une éducation, une reconnaissance, un savoir-faire technique? Et elle cherche les réponses dans l'intime, dans le travail, dans ce qu'on s'accorde à soi-même, c'est-à-dire que écrire, c'est oser se croire digne d'être lu. L'activité respectable du titre, elle est donc double, hein, c'est l'écriture bien sûr, mais c'est aussi sa matrice, la lecture. Et je la cite, « Nous avions beaucoup, beaucoup de chance, me disait ma mère, parce que nous avions les livres et que dans les livres, les phrases étaient éternelles, noires sur blanc, solides, crédibles, elles nous livraient le monde entier, lavé de ses scories, sans temps mort, un cours d'eau pur et bondissant, un monde dans lequel nous pouvions nous échapper chaque fois que le monde réel cessait d'être intéressant. » Et cette leçon-là était une grande leçon aussi pour quelqu'un qui voulait devenir écrivain. Et c'est aussi ce livre, vous l'entendez dans cette citation, un hommage à ses parents, à sa mère, mais aussi à son père, qui sont eux-mêmes fous de lecture, qui vont offrir une machine à écrire à leur fille pour ses 5 ans. Des parents qui vraiment vissent au corps de leur enfant l'idée que lire et écrire sont des activités respectables et surtout des activités hautement désirables. Une activité exigeante aussi, puisque sa mère lit mais aussi relit, elle pointe les passages paresseux, les personnages superflus chez cette petite fille qui se met à écrire très tôt, très comme vous, Denis Amiralé, la poussant sans cesse à remettre le manuscrit sur le métier en disant « la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est un incendie ». Donc toutes ces graines semées, la jeune Julia écrit, elle le dit elle-même, entre 20 et 30 ans, elle a énormément travaillé pour être là où elle est, pour être une écrivaine publiée. Elle dit de cette décennie passée entre Berlin, Budapest, la Bretagne, elle se déplace beaucoup, c'est vraiment toujours la même journée. Il n'y a que les endroits qui changent, au point que je suis à peine capable, quand je regarde par la fenêtre, de savoir où je me trouve exactement. Parce que l'écrivain, l'écrivaine, et c'est une des affirmations qui sous-tend le livre, ne peut pas être seulement un lecteur émerveillé, il doit aussi être un artisan, un ouvrier du langage, et donc il y a une dimension laborieuse de l'écriture qui est vraiment honorée dans cet essai. Alors on pourrait penser que c'est une forme de justification, une manière de légitimer tout le travail invisible et pourtant hautement nécessaire qui précède la reconnaissance par les pairs, qui est tout le travail de l'apprentissage, des erreurs, des échecs, des espoirs. Et moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, et j'ai trouvé que ça avait un effet tout à fait libérateur. On peut exercer longtemps une activité avant qu'elle soit considérée comme respectable dans le regard des autres, si on la trouve soi-même respectable. Mais c'est pas tout à fait ce que Julia Carninon dit à propos d'elle-même, c'est pas grave, on a le droit de lire les livres comme on veut. Elle dit, puisqu'elle a toujours écrit et que c'est une activité qui lui est donnée d'emblée comme respectable, cet essai plutôt, après la publication de deux romans, comme une forme de reconnaissance d'elle-même, pour elle-même, pour ce travail accompli dans le silence.
Et quel travail, hein ! Il s'agissait donc d'une activité respectable de Julia Carninon dans la collection La Brune des éditions du Rouergue. Et Dunia Miralles, ce travail invisible, ce travail de longue haleine, de solitaire, de l'écriture, c'est difficile, c'est laborieux, c'est jouissif, c'est salvateur, c'est tous les jours.
Je dirais que c'est ce qui est le plus long en fait. Et surtout, pour moi, ce qui est difficile, c'est de m'arrêter sur un sujet, de dire maintenant je vais travailler tel sujet, quoi. Et j'ai toujours plein d'idées. Puis là, par exemple, le prochain livre que je vais écrire va parler de la langue. Étant donné que j'ai reçu une bourse par la fondation Winterthur La Chaux-de-Fonds, et que cet automne, je vais aller 3 mois à Winterthur, et je ne sais absolument pas un mot, ni d'allemand, enfin allemand un tout petit peu parce que j'ai appris à l'école, ni de suisse-allemand, et je
vais écrire... Un petit peu d'allemand de l'école, pas de suisse-allemand, 3 mois à Winterthur.
Exactement.
Et vous n'allez pas tricher. Vous n'allez pas parler en anglais, ni en espagnol,
ni en
français.
Je ne sais pas l'anglais non plus.
Mais
quoi.
C'est super, donc la
mais l'espagnol,
expérience.
Alors, par contre, j'ai remarqué que beaucoup de gens savent l'espagnol.
Mais vous n'aurez pas le droit, vous devez mener le truc. Donc vous allez écrire sur la langue dans les mois qui vont venir. Vous partez quand?
Alors, le 10 septembre jusqu'au 10 décembre.
Bientôt.
Oui,
très bientôt. Grosse expérience. Nous vous envoyons donc Dunia Miralles, cher ami de Winterthur. Préparez-vous. Et surtout, ne lui parlez pas espagnol.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 2h.